Léonore Confinot, donc l'autrice dont nous avons beaucoup parlé et en cours et en option théâtre. Les élèves de première ont travaillé sur un texte d'elle et la choisiront aussi comme lecture cursive à la fin de l'année pour le bac. Et pour l'option théâtre, eh bien, nous travaillons avec le théâtre de Privas dans le cadre du dispositif Une autrice, une année. Et donc cela comporte la rencontre d'aujourd'hui avec toutes les classes d'option et de première. Merci.
Alors je m'appelle Léonore Confinot et je suis autrice dramaturge. Donc mon métier c'est d'écrire pour le théâtre et j'ai écrit à peu près une douzaine de pièces qui sont éditées soit chez L'Œil du Prince, soit chez Actes Sud Papier.
Le fait que tu aies accepté de participer à des ateliers dans des collèges et dans des lycées autour de Benat, pourquoi déjà t'as accepté et qu'est-ce que tu en retires de ces ateliers ?
Je crois que déjà j'ai envie de rendre ce qu'on m'a donné parce que quand j'étais au collège et au lycée, j'ai eu des intervenants qui tout d'un coup m'ont éclairé sur ce qu'était l'écriture théâtrale. Et ce que j'en retire, c'est vraiment un accès à des récits et à des singularités chez les adolescents qu'on a souvent tendance à mettre dans un même bloc. Alors que quand ils s'entre-écoutent sur des récits de vie, des monologues, une description toute simple de leur chambre, déjà ils ont accès au fait que tous ont des vies accidentées, riches et contrastées, avec des familles différentes. Et en plus, ils découvrent le plaisir de parler d'eux, c'est-à-dire de formuler à l'oral ce qu'ils ont déjà écrit sur un papier. Et ils n'ont pas souvent l'habitude en fait, de se lire eux-mêmes. Ils lisent les textes des autres, ils rendent des textes écrits, mais dire leurs propres mots, les faire résonner, je trouve que c'est vraiment un accès à leur voix profonde, quoi. Donc moi, ça me bouleverse à chaque fois de les écouter.
Merci beaucoup. Je suis très contente de vous rencontrer. Donc je vous propose que pendant une heure, alors il n'y a pas de questions absurdes, je vous propose qu'on en profite vraiment pour parler d'écriture, de théâtre, de vertige de plateau, de quelle est cette spécificité d'écrire pour le théâtre. On peut parler du métier d'écrire, mais on peut parler aussi de vous, votre rapport au trac, à l'écriture, à la liberté, à la transgression, parce que c'est aussi ça l'art dans nos vies qui sont un peu millimétrées, conformées. C'est comment on arrive à attraper un espace qui est autre, qui est plus grand que nous, et dans lequel on va pouvoir purger des émotions qu'on ne peut pas purger dans la vie en général, ou peu en tout cas. Voilà. Est-ce que vous avez préparé des questions comme ça ? C'est vraiment une discussion. Hein.
Ma question, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire du théâtre ? Qu'est-ce que vous ressentez à travers ce genre littéraire, en fait ?
C'est une excellente question. Il y a plusieurs réponses. Il y a une réponse qui est déjà une réponse de parcours. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, quand j'étais en école primaire, j'ai découvert le théâtre très tôt avec une prof de théâtre qui s'appelait Marie-Laure de Roy et qui était intervenue dans notre petite école à Montpellier. Et elle nous avait fait jouer la Révolution française parce que c'était le bicentenaire de la Révolution française. Et je me souviens qu'on avait construit pour la fin du spectacle une guillotine avec du carton, du bois, une fausse lame. Et à la kermesse de fin d'année, devant absolument tous les parents, donc on avait 8 ans en gros, on avait commencé à se guillotiner les uns les autres, Marie-Antoinette et tout ça. Et on avait pris des jets de sauce tomate et on s'était éclaboussé. Enfin, c'était extraordinaire comme sensation. Et certains parents avaient été diablement choqués par ce qu'on avait fait. D'autres avaient, c'était vraiment marré, dont mes parents qui ont toujours été plutôt soutenants. Mais en tout cas, ce jour-là, dès l'âge de 8 ans, je me suis dit, oh, on est dans une forme comme ça de vraiment de désobéissance vis-à-vis des règles. Donc ça a été ma première entrée dans le théâtre. Et notre prof s'est fait virer à la fin de l'année. Et ensuite, elle avait tagué les murs de notre école primaire. Elle était très, très punk. Donc, waouh, tout d'un coup, moi qui avais appris à me conformer aux règles et tout ça, tout d'un coup, je découvrais le théâtre par ce biais-là. Et donc, il y a eu une sorte de malentendu dans ma vie qui a duré de très nombreuses années. À l'école, je n'ai étudié que des auteurs masculins morts de théâtre. Des Molière, des Shakespeare, des Harold Pinter. Et j'ai très vite aimé le théâtre. Mais pour moi, ma place en tant que fille, c'était sur scène. Je ne me voyais pas écrire, j'y ai jamais pensé, à vrai dire. D'ailleurs, vous savez pourquoi on dit autrice aujourd'hui ? En fait, il y a une historienne qui... Je suis la reine des digressions, mais je vais revenir à la réponse. Il y a une historienne qui s'appelle Aurore Evin et qui a réalisé que le mot auteur, autrice, qui vient de l'étymologie s'autoriser, mais autrice a existé jusqu'au XVIIe siècle. C'est un mot qui, comme actrice, acteur, actrice, auteur, autrice, existait. Et puis, au XVIIe siècle, sous le cardinal de Richelieu, se constitue la première académie française, constituée à 100% d'hommes, et il décide de créer le premier dictionnaire de la langue française au XVIIe siècle. Et là, les gars autour de la table, ils se disent « Bon, ben, actrice, c'est normal, c'est les femmes, elles sont là pour être regardées, donc on garde dans le dictionnaire. Autrice, on va supprimer le mot, on va juste garder auteur, parce qu'on n'aime pas trop les femmes qui écrivent. » Et donc, c'est un mot qui, littéralement, a été squeezé de la langue française. Donc, quand on l'a réhabilité, il y a à peu près de ça 5-10 ans, il y a plein de gens qui disaient « Mais c'est horrible à dire le mot autrice. » Puis moi, je leur dis « Puéricultrice, t'as pas de mal à le dire. » Alors, c'est hyper compliqué à dire. Mais autrice, ça t'écorche la bouche. Alors qu'en fait, c'est un mot qui a existé, qu'on a supprimé et simplement qu'on réhabilite. Tout ça pour dire que pendant des années, je pensais être actrice. Et jusqu'à mes 24-25 ans. Sauf que j'avais un trac absolument paralysant. J'avais un trac qui durait avant, pendant et après les représentations, là où tous mes copains, copines sur scène se déchargeaient littéralement sur le plateau. Et à un moment donné, un ami m'a dit « ce serait peut-être intéressant que tu penses à te mettre ailleurs dans tout ce processus ». Et là, suite à mon divorce, je me suis mariée très tôt, beaucoup trop tôt, je me suis mise à écrire des petites scènes de couple comme ça. Ça a donné Ring, j'avais 25-26 ans. Et j'ai découvert le bonheur d'être dans le noir, caché dans la salle, et d'avoir la sensation, par le transfert des comédiens, par le truchement de leurs émotions, de leur transpiration, de vivre tout intégralement, mais en étant absolument protégée. C'est-à-dire que j'aime pas l'exposition, j'aime pas être regardée pendant une heure et demie. Et surtout, mon immense plaisir, mais ça j'ai mis pas mal d'années à le conscientiser, parce que j'ai écrit 12 pièces depuis, c'est vraiment de faire la moitié du chemin avec l'écriture. C'est-à-dire que je fais des textes dans lesquels il y a des trous. C'est la spécificité pour moi de l'écriture de théâtre. On ne va pas plâtrer le sens comme dans le roman où tout d'un coup le lecteur doit se figurer toutes les dimensions de ce qui est raconté. Moi, je ne fais qu'une partie. Et après, c'est le corps des comédiens, leurs émotions, leurs choix, leur vécu, leur grain de peau, leur voix qui va venir habiter ces mots d'une manière radicalement différente selon l'interprète et selon la mise en scène, l'éclairage, la musique, etc. Et j'adore ce moment de grande solitude où j'écris toute seule dans mon coin, sans savoir ce que ça va donner, et ensuite de découvrir à l'aune de ces vies de comédiens ce que ça va donner sur le plateau. Et je suis toujours extrêmement surprise par ce que je découvre, quoi. Je suis souvent bouleversée. Et je trouve qu'il y a souvent un malentendu dans les cours de français où on a l'impression que le ou la dramaturge, l'auteur, l'autrice ont pensé à tout. Mais moi, je ne pense pas du tout à tout. Moi, je me laisse faire par l'écriture. Quand j'écris... Vous n'avez pas lu L'Enfant de Verre ? Non. Voilà, il y a plein d'histoires. Je les écris avec des impensés, avec des mystères, avec l'inconscient qui surgit. Je n'ai pas un plan hyper carré. Je ne connais pas, je ne sais pas ce que mangent mes personnages au petit-déj. Je ne sais pas si... Ils ont une corporalité plutôt très raide, très maigre ou plutôt très large. Et c'est vraiment à vous, quand vous vous emparez des textes des auteurs, des autrices, de les transfigurer, de les transcender, de les malmener aussi un peu, voilà, pour voir comment ça résonne avec vous. Et j'adore après le collectif, c'est-à-dire j'aime cette immense solitude, je suis un peu schizophrène sur ces choses-là. J'aime être toute seule et après j'aime... le stress absolu, j'aime les galères de création. Et j'ai remarqué, donc pour ceux qui pratiquent le théâtre, que c'est jamais bon quand les répétitions sont trop tranquilles. C'est bien un temps d'être dans la douceur, de toute façon, d'être dans la douceur, la bienveillance, évidemment, et le respect d'autrui, évidemment. Mais souvent, j'ai remarqué qu'une semaine avant la création, il y a souvent un accident, quelque chose qui se produit. Le décor qu'on espérait avoir n'est pas arrivé. Il y a une scène qui ne fonctionne pas, il faut tout réécrire. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui va vers le danger. Et aussi, donc, ce qui me plaît dans l'écriture théâtrale, et dans le théâtre spécifiquement, c'est le danger. Il y a des erreurs, il y a des trous de mémoire. On a vécu quelque chose dans la journée qui va teinter la pièce d'autre chose. Et je trouve que nos vies sont de plus en plus programmatique. C'est-à-dire que je trouve que de plus en plus, on sait ce qu'on va manger, on sait qui on va rencontrer. Et moi, j'aime l'errance mentale, les accidents émotionnels. Je trouve que la vie est faite de tout ce qui n'était pas prévu, à vrai dire. Voilà. C'est une longue réponse. Mais c'est, moi, c'est parce que j'aime les gens, ouais, que je fais du théâtre. Et puis, j'aime la peur. J'aime la peur heureuse, quoi. Avec le théâtre, je suis quelqu'un d'assez flippé, mais avec le théâtre, j'ai découvert qu'on pouvait avoir des peurs heureuses. Mais vous savez ce que c'est que biologiquement, le trac ? Le trac, c'est une chose... Quand j'ai compris ça, ça m'a un peu aidée quand même. J'ai découvert que le trac, c'était le corps qui se prépare à parler au plus grand nombre. Donc, en fait, on a l'impression que le trac, c'est un truc qui vous fait juste aller aux toilettes et envie de partir avec le premier train qui partira d'Aubenas. Mais ce n'est pas exactement ça. Il n'y a pas de train ? Ça, c'est la petite Parisienne qui arrive et qui pense qu'il y a des trains et des... Non. OK, vous avez des bus quand même. Ah, oh, j'adore. OK, je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de train. Alors, le trac, si vous avez les mains moites, hein, si vous vous mettez à suer affreusement ou si vous avez la bouche sèche, c'est qu'en fait, votre corps est en train de vous dire « Tu vas devoir parler à plus de 200 personnes, en tout cas, tu vas devoir parler à une grande salle. » Et donc, du coup, tu vas devoir sortir de toi-même. Donc, soit tu pars, effectivement, et à ce moment-là, bon, bah, c'est que tu n'es pas fait pour ce métier, soit c'est le contraire, soit tu sors de toi-même. C'est-à-dire que ta petite carapace d'être humain qui a l'habitude de parler tout doucement est obligée d'exploser. Et en fait, le trac va vous obliger à vous ouvrir vos poumons, respirer plus fort, transpirer plus fort et catapulter votre voix pour qu'elle soit la plus audible possible. Et une fois qu'on a compris ça, je trouve que le trac s'appréhende d'une autre manière. Ça peut être un vrai soutien, en vérité. C'est pas super de pas avoir le trac. Vous avez d'autres questions, d'autres réflexions par rapport au théâtre ? Est-ce que certains écrivent ici ? Il y a une main qui s'est levée. Vous écrivez ?
Ouais, mais pas du théâtre.
Et vous, il n'y a pas d'obligation à écrire du théâtre. Vous écrivez quoi ?
Des poésies.
De la poésie ? Quand ça ? À quel moment de la journée ? Ou est-ce que c'est dans quel lieu ? Enfin, dans quel contexte ?
C'est plutôt le soir, enfin, quand ça me vient en fait.
D'accord. C'est irrégulier ? C'est une pratique irrégulière ? Ouais.
Je me demandais si vous programmiez justement le moment pour écrire, ou si c'était vraiment posé dans la journée, ou si c'est justement quand ça vous venait, comme ça.
Alors déjà, j'ai des grandes périodes où j'écris pas parce que j'ai vraiment rien à dire. C'est-à-dire que je me suis fixé la règle de n'écrire que parce que il y avait une histoire qui me brûlait, que j'avais vraiment envie de la raconter. Donc c'est pas une pratique hyper régulière dans ma vie. Par contre, une fois que c'est lancé, en général, ça va durer 3-4 mois. Je sais que Le village des sourds, par exemple, je l'ai écrit pendant le confinement, pendant le Covid. Et là, je sais que c'est vraiment de 9h à midi que j'ai une forme d'efficacité, en tout cas que les idées viennent, que j'ai le besoin, que ça fourmille dans les mains et dans l'inconscient, et qu'à partir de 14h, je ne vaux plus rien. Et donc, je vais faire de la retouche, de la correction, etc., ou travailler avec mes éditeurs pour de la mise en page, enfin bref. Mais c'est essentiellement le matin. Après, c'est assez particulier le besoin d'écrire en soi. J'écris aussi un petit peu de poésie, enfin d'autres formats. Souvent, l'impulsion, en tout cas, ça va être de revenir sur quelque chose qui s'est mal passé dans la vie, sur lequel j'ai pas eu de mots, j'ai pas pu m'exprimer, et je vais avoir besoin de déplier ce moment, d'explorer toutes les possibilités autour de cette. Voilà, de cet accident de vie ou de ce silence qui m'a été imposé. Par exemple, ma première pièce building, alors c'est la deuxième, mais c'est la première qu'on a montée avec la compagnie. Pendant mes études de théâtre, de comédienne, j'étais beaucoup hôtesse d'accueil pour des séminaires, etc. C'était une façon de gagner ma vie. J'ai été beaucoup télémarketeuse aussi. Vous savez, ces gens qui vous appellent au téléphone. Donc c'est présent dans la pièce. Oui, c'est l'enfer. C'est l'enfer pour ceux qui reçoivent le coup de fil. C'est vraiment aussi l'enfer pour l'étudiante qui passe le coup de fil et qui se fait raccrocher au nez toute la journée. Enfin, tout ceci est un vaste malentendu qui génère beaucoup de tristesse. Mais en tout cas, j'étais hôtesse d'accueil, donc vraiment, on me mettait dans une sorte de tailleur gris. J'avais une chef hôtesse qui me disait comment il fallait que je me maquille, il fallait que je retire mon chignon toute la journée, et j'étais littéralement posée à côté des toilettes et d'une plante verte toute la journée pendant 6 heures sur des talons comme ça, à indiquer les toilettes à des gens dans des grandes entreprises. Et voilà, c'était vraiment un costume d'invisibilité qui m'a permis d'observer le monde autour de moi, parce que j'étais vraiment comme une plante verte. Et le soir, en rentrant à la maison, j'écrivais les absurdités, les conversations que j'écoutais entre les employés, le jargon de l'entreprise, les petites violences ordinaires, etc. Et donc, c'était vraiment une vengeance pour moi. J'enlevais mes talons ce soir, je me mettais en jogging. J'écrivais. Et dans cette pièce qui se déroule sur 13 étages, où on monte du parking, où il y a une petite hôtesse qui change au début entre deux bagnoles avec sa chef hôtesse, et on va monter dans les étages, il y a 34 personnages comme ça. Et la petite hôtesse, à la fin, finit très très mal dans le pot, dans le cocktail final de la pièce. Et donc, voilà, c'est souvent pour moi l'écriture, une façon de revivre des choses, mais sous un aspect drôle, positif, cruel, mais une façon de transformer la réalité. C'est ça l'écriture. Et donc je vous encourage tous à écrire, parce que moi, il y a une chose que j'ai remarquée récemment, mais en fait c'est très banal ce que je vais vous dire, mais c'est quand même intéressant d'en avoir conscience, c'est que quelles que soient les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, que ce soit, je travaille beaucoup avec des détenus en prison, mais voilà, j'ai voyagé, j'ai rencontré des jeunes gens comme vous et puis des très vieux, de toutes origines, toutes religions, etc. Mais c'est qu'il n'existe pas un seul être humain qui ne se raconte pas sa vie, qui ne produise pas de récit de sa vie en même temps qu'il la vit. C'est-à-dire que vous tous, en même temps que vous vivez, mangez, avez des relations avec vos parents, vos petits copains, petites copines, amis, etc., frères et sœurs, en même temps que vous travaillez et vous faites vos devoirs, tout ce qui vous arrive, normalement, vous essayez de le raccorder à un récit qui donne du sens à votre vie. Et plus, en fait, vous êtes abreuvé d'autres récits, vous êtes abreuvé de mots, de capacités d'analyse, de compréhension, de distance, de philosophie, plus ces événements, ces deuils, ces choses difficiles que vous allez vivre, ces sentiments parfois d'exclusion, etc., ces échecs, ces réussites, vous allez pouvoir les inscrire dans un parcours qui ressemble déjà à une histoire métaphorique de vos vies. C'est déjà de la poésie, finalement. Je ne sais pas si vous mesurez ça ou pas, mais personne ne vit sa vie au premier degré. Ce n'est pas vrai, en fait. Quelqu'un qui conduit des camions toute la journée pour faire des livraisons entre la Hongrie et la France, il se raconte des trucs pendant qu'il conduit. Il se dit « Pourquoi est-ce que je suis camionneur ?» Enfin, je veux dire, personne se dit « Je suis camionneur » et puis c'est tout, quoi. Et c'est pour ça que l'éducation, lire des choses totalement inutiles, paver son inconscient de mots, c'est très important. C'est ce que raconte aussi un peu le village des sourds. Pour vous, c'est quoi la fonction du langage, justement? C'est quoi les fonctions du langage et des mots? C'est pour vous?
Le langage, ça permet d'échanger. En fait, c'est ce qui nous différencie des animaux. Et ça nous permet de vivre en communauté et d'échanger sur des valeurs. Enfin, c'est sa première fonction. Après, ça permet plein de choses, mais moi, c'est ce que j'en retiens. Ça nous permet d'échanger entre nous.
Oui, oui, ça nous permet effectivement d'échanger entre nous, de communiquer, d'exprimer nos émotions. J'ai vécu une expérience qui était assez passionnante sur le village des sourds, donc que certains ont vu et d'autres pas vu, mais sur le plateau du village des sourds, il y a une comédienne qui est sourde. Elle est vraiment parfaitement sourde. Enfin, vraiment, elle n'a jamais entendu un seul son de sa vie, sauf quand elle était tout bébé. En fait, ses parents lui ont donné un médicament par erreur quand elle était bébé, ça l'a rendue sourde. Sauf que, c'est un peu terrible. Sauf que elle a grandi dans un tout petit village où il n'y avait pas de car, bref, ni de train. Non, elle a grandi dans un tout petit village où il n'y avait pas la culture sourde autour, il n'y avait pas d'autres sourds, pas de prof de langue des signes. Et ses parents n'étaient pas vraiment concernés par cette question-là. Donc, en fait, de 0 à 10 ans, elle a grandi dans ce petit village avec une toute petite école. Et on la mettait au fond de la classe et elle ne comprenait strictement rien. En gros, de 0 à 10 ans, elle n'a pas eu de langage. Ni de langue des signes, elle ne pouvait pas vraiment lire sur les lèvres, elle ne savait pas lire ni écrire, parce qu'il faut savoir que quand on est sourd, vous, quand vous apprenez à lire, ça produit un son dans votre tête, donc du coup, vous relayez le graphisme du A, un son dans votre tête. Donc ça, un sourd, ça ne produit pas de son quand il lit A. Donc en fait, ça reste une sorte de dessin complètement abstrait. Et elle nous a raconté que de 0 à 10 ans, elle ne rêvait pas la nuit, elle ne faisait pas de cauchemars. Elle n'arrivait pas à se figurer qu'en dehors de l'endroit où elle était ici et maintenant, il y avait d'autres endroits, d'autres pièces, d'autres pays. Elle était toujours dans l'ici et maintenant, dans un rapport extrêmement frontal aux choses, parce qu'elle n'avait pas de mots à l'intérieur d'elle. Et à 10 ans, son grand-père l'a emmenée pour apprendre la langue des signes. Il a dit, maintenant, ça suffit, il faut absolument qu'elle apprenne et qu'elle ait un langage pour exprimer ses émotions, etc. Et à partir de là, tout s'est allumé dans sa tête. Elle s'est mise à lire en langue des signes de la poésie, elle a appris à lire et à écrire, etc. Mais en tout cas, c'est son monde intérieur avant tout qui s'est rempli. Elle a pu rêver la nuit, elle a pu s'imaginer un avenir, repenser au passé, parce qu'elle n'avait pas de mémoire non plus sans les mots. Elle n'a pas de pensée et donc elle n'avait pas de mémoire. Et en fait, les mots, c'est aussi ce qui vous aide complètement à justement tisser ce récit depuis votre naissance, quoi. C'est hyper important. Je trouve aussi que c'est un énorme outil de tolérance, les mots. Moi, j'ai un ami, je racontais ça hier, j'ai un ami, tout le monde pense toujours qu'il est hyper radin. C'est-à-dire que c'est un copain, il travaillait dans notre compagnie. Et en fait, ça fait 20 ans que nous, on pense qu'il est radin parce qu'il ne paye jamais un café. On est partis en tournée des dizaines de fois. À chaque fois, on s'invite les uns les autres à bouffer, etc. Et puis lui, rien, jamais, jamais il sortira 50 centimes pour vous payer un café à la machine à café. Bref, donc ça commençait tous à nous chauffer un peu, cette attitude. Et voilà, il a 2 enfants, il a de quoi payer son loyer, enfin, il gagne sa vie. Et donc, je le jugeais énormément. Et récemment, je l'ai confronté, on a eu une discussion autour de ça. Je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression que ça te coupe un peu socialement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as tant de mal à payer un café à quelqu'un? Qu'est-ce qui te coûte à ce point, quoi? Et donc, il m'a raconté son histoire. Il m'a raconté qu'à l'âge de 9 ans, son père était parti, qu'il s'était retrouvé avec ses frères dans une chambre d'hôtel à vivre avec sa maman, qu'ils n'avaient qu'un repas par jour et que cet événement de sa vie avait produit un traumatisme absolument durable où il était terrifié depuis à l'idée de manquer. Et une fois qu'il m'avait raconté cette histoire, une fois qu'il m'avait éclairé grâce aux mots et au langage sur cet événement traumatique de sa vie, je n'avais plus du tout envie de le traiter de radin. J'avais juste envie de dire, c'est un ami traumatisé par un événement extrêmement sensible de son enfance. Et je trouve que souvent, on va tomber sur des gens qui sont en colère, qui ont des attitudes qui nous surprennent, nous déstabilisent. Et en fait, souvent, quand on peut avoir accès à ce qui a généré cette attitude, on est beaucoup plus tolérant, quoi. Il y a aussi quelque chose qui me semble intéressant avec les mots, et là on rejoint votre capacité poétique, c'est que les mots ne s'inscrivent en nous jamais de la même manière. C'est-à-dire que, en fait, la façon dont on va engrammer du langage et la façon dont on va structurer nos phrases est toujours différente selon les personnes. Parce qu'en fait, les premiers mots que vous apprenez, puis après tout au long de votre vie, vont être associés à une odeur, un vécu, une personne. Et vous ne verrez, personne dans cette classe ne verra exactement la même chose derrière un mot.
Question justement par rapport à ces humeurs qui varient un petit peu quand on écrit et ce qu'on essaie de faire passer comme message. Est-ce que vous, en écrivant Ring, vous cherchez plus à dénoncer les malentendus entre les êtres humains ou plutôt à en faire justement un éloge? Ou est-ce que c'était les deux?
Ouais, en tout cas, d'un point de vue strictement théâtral et dramaturgique, je suis obligée de travailler sur le malentendu. C'est-à-dire que pour chaque pièce, au théâtre, un bon dialogue, c'est un dialogue qui se passe mal. Vraiment. C'est-à-dire que si un dialogue se passe bien au théâtre, la pièce se termine au bout d'une minute trente. Je vais mal. Ah, tu vas mal. Pourquoi tu vas mal? Eh bien, parce que j'ai été blessée par ce que tu m'as dit. Je te demande pardon, fais-moi un gros câlin. Voilà. En gros, ça, c'est un dialogue qui se passe bien. Mais au théâtre, ça ne peut pas être ça, parce que sinon, je trouve qu'on travaille vraiment sur cette matière du langage mal énoncé, du mensonge, de la chose qu'on ne s'avoue pas à soi-même, qu'on n'avoue pas à l'autre, de la chose qui est si difficile à avouer qu'on va mettre toute une pièce entière à l'avouer, d'une agression qu'on a subie, qu'on n'arrive pas à formuler. de toutes les entraves du langage. C'est vraiment ça ma matière première. Donc évidemment, en me penchant sur Ring, j'allais travailler sur ça justement, sur la difficulté à cohabiter, à se parler, à se comprendre, à avoir le même langage, surtout entre un homme et une femme, entre deux hommes et deux femmes. Après, c'est vraiment une déclaration d'amour au couple, Ring pour moi, parce que je trouve qu'on a tendance à justement beaucoup vouloir lisser les émotions, ce qui se joue entre les êtres humains, à vouloir parfaire les choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement, c'est le mouvement de la vie. Moi, j'ai eu des couples cataclysmiques. Ça fait 17 ans que je suis avec le même homme. On a deux enfants, on a traversé des tempêtes. Et je trouve que c'est une des aventures les plus extraordinaires qu'il m'ait été donné de vivre. C'est de mettre des mots, c'est d'essayer de comprendre le parcours de l'autre, d'où viennent les parents de mon conjoint, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Et au premier enfant, pourquoi est-ce qu'on pète les plombs à ce point? Ah ben on n'avait pas du tout la même vision de l'éducation. Ben oui, mais moi j'ai été éduquée comme ça. Ben oui, mais moi j'ai eu ce manque-là. Mais oui, mais moi j'ai la peur de l'abandon. Et en fait, le couple, c'est vraiment un endroit où on a l'impression d'être un peu enfermé ensemble, parfois pour des années. On peut très bien se séparer si vraiment ça n'a plus de sens. Mais quand on s'aime hyper fort, c'est vraiment l'enjeu du dialogue jusqu'au bout, quoi. Voilà, donc je trouve que c'est un endroit qui symbolise vraiment qu'est-ce que c'est que de vivre ensemble en ayant beaucoup d'enjeux communs, quoi. Surtout quand on habite ensemble, quand on fait un gamin ou pas ensemble, mais en tout cas... Donc je crois que c'était vraiment un désir de dire que les malentendus sont passionnants pourvu qu'on les traite, qu'on les analyse et que... Voilà. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'ère de la sagesse, de la distance, du calme. Voilà. Et donc, déjà à 20 ans, quand on est influenceur, on doit être cool. Toujours être capable de prendre de la distance avec les gens, avec les choses. Et il dit, mais en fait, la vie, c'est être tempêté par la vie, c'est être traversé par elle, c'est être agité, c'est éprouver 1000 émotions. Avant d'avoir une espèce de sagesse et de distance, enfin, Nelson Mandela, il lui a fallu des décennies de révolte, d'injustice, je trouve que c'est beau en fait d'être agité, de se mettre en colère, de s'excuser, d'essayer de comprendre. On n'est pas des robots, quoi. C'est voilà. Et le théâtre, pour moi, c'est aussi ça. C'est traverser toutes ces choses-là en plus grand pour pouvoir s'en apaiser, se réparer, etc. C'est vraiment fou et c'est quasiment systématiquement toujours ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est les plus timides, les plus effacés, parfois aussi les plus exclus qui tout d'un coup, quand on leur donne la parole et vraiment l'espace pour être écoutés, entendus, c'est eux qui vont nous bluffer par la qualité de leur monde intérieur. Parce que souvent, les élèves qui sont un peu seuls, ils n'ont pas le choix aussi que de cultiver un monde intérieur, un monde à eux. Et là, tout d'un coup, ça nous explose au visage. Et c'est absolument magnifique. Donc ces ateliers, c'est aussi vraiment des outils de tolérance et de redonner une pleine place à chacun. Et parfois aussi de créer des vocations. Parce que le théâtre, ça peut vraiment être un endroit justement de sécurité et d'expression pour des gens qui ont du mal à être dans la vie, dans les relations sociales. Tout d'un coup, tac, ils sont sur un plateau éclairé, entendu. Et là, on les entend pleinement, quoi. J'adore aller dans des établissements comme ça. Ouais, ça les sort du devoir, de l'obligation. Ils découvrent ce que c'est que la liberté, la transgression par l'art et comment on augmente sa vie, quoi.
Alors, question piège. Si tu avais à donner un conseil à un jeune, toi, avec ton expérience, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Bah, je lui dirais que tout le monde a des goûts, déjà. On n'est pas obligé de tout aimer. Je pense qu'il faut aller un maximum au théâtre, voir des concerts, et tout d'un coup se dire, tiens, qu'est-ce qui résonne en moi ? Et ensuite, c'est d'aller absolument voir les équipes de théâtre, les metteuses et les metteurs en scène, les comédiens et comédiennes, et leur dire, tiens, bah, moi, ça me passionne. En tout cas, c'est de créer un dialogue avec les équipes, parce que nous, on adore ça. Voilà, ça donne du sens à notre métier. Donc, c'est vraiment avoir aucune inhibition avec les équipes qui viennent présenter des créations. Et ensuite, s'il y a des questions de moyens financiers pour accéder aux spectacles, etc., les théâtres ont une vraie mission d'accueillir les jeunes, de faire en sorte qu'il y ait des tarifs parfaitement accessibles. Surtout, ne pas se mettre cette interdiction par rapport à l'argent que coûte un ticket de théâtre. Les établissements trouvent toujours une solution. Voilà.
« Léonore Confino était l'invitée du lycée Gimond de Benin, où elle a passé une journée pour des rencontres et des ateliers d'écriture. C'était la première partie de ce reportage sur InfoRC, et surprise, comme il s'est passé plein de choses intéressantes ce matin-là, vous aurez droit à deux autres émissions que vous pourrez écouter sur notre antenne ou en podcast sur X, Twitter et Facebook.